Le gang des hystériques.
Le gang.
Bim.
La question est que les femmes veulent se prendre en main elles-mêmes.
Justement des femmes noires dans leur pluralité, dans leur complexité aussi.
La plupart d'entre vous le sentent.
Attendez-vous.
Ils savent qu'on ne peut empêcher les avortements en détruisant.
Bonjour à toutes, à tous et aux autres et bienvenue sur le gang des hystéries que vous pouvez écouter sur Micro Rebelle mais aussi sur PFM 99.9 avec les nouveaux horaires. Ça sera cette fois-ci à partir donc de cette émission le troisième lundi du mois à 21h, le mercredi qui suit à 3h du matin, le vendredi à 23h et enfin le samedi à 14h. Pour l'émission d'aujourd'hui, je suis avec Lily.
Bonjour.
Et avec Marin.
Bonjour.
Et comme d'habitude, nous commençons notre émission avec le petit agenda du mois. Donc, pour commencer, on se retrouvera pour un lundi du planning. Donc, au local du planning familial, je rappelle l'adresse 45 rue François Gauthier. Donc le lundi 4 novembre de 18h à 21h sur le thème de la contraception masculine. Qu'est-ce qu'on connaît vraiment? Qu'est-ce qu'on a envie? Préservatif, méthode hormonale ou mécanique? On est là pour en discuter, pour partager, pour s'informer sur tout ce qui est contraception masculine. Et vous pouvez bien sûr vous inscrire en envoyant un email ou en message privé via Facebook directement.
Sinon, c'est gratuit, voilà. Le concept du lundi du planning, c'est un accueil ouvert, inconditionnel et gratuit.
Ensuite, nous avons pour la suite de notre agenda le fameux bar LGBT. Donc, cette fois-ci ne sera pas le premier vendredi du mois de novembre parce que ça tombe le 1er novembre. Donc, on fera le bar LGBT donc le 8 novembre, toujours au local au 45 rue François Gauthier à Lens, à partir de 17h. Donc, la formule ne change pas. On vient dans la bonne ambiance, pour une bonne ambiance, une bonne humeur. Les smoothies, les jus de fruits, de quoi grignoter. Si vous voulez, on peut faire des jeux de société. On en a quelques-uns maintenant au local. Voilà, donc pour toutes les personnes LGBT+, et les autres qui souhaiteraient participer à ce petit moment convivial. Je laisse maintenant la parole à Marin qui va nous citer les journées mondiales ou nationales qui se sont passées récemment ou qui vont se dérouler et qui vont nous amener à la suite de l'agenda.
Alors, pour celles qui se sont passées, le mois de septembre était riche de journées mondiales à célébrer. Celle de la contraception, le 26 septembre, et celle du droit à l'avortement, le 28 septembre. Voilà, puisque c'est une petite date à retenir par rapport à notre sujet du jour. Et puis, celle à venir, en lien aussi avec la thématique du lundi du planning qui arrive. Le 13 novembre, la journée mondiale de la vasectomie, et puis le 25 novembre, c'est bien sûr la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes.
Alors, à propos de cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes, nous avons sur le territoire deux soirées qui vous sont proposées sur ce thème-là. À Hénin-Beaumont, le vendredi 22 novembre, de 20h à 22h30, vous avez rendez-vous avec une pièce de théâtre et suite à ça, une discussion, un partage pour se questionner ensemble sur ce sujet qui nous concerne toutes et tous. Et sur le même thème, on a à Auchel, donc le 29 novembre cette fois-ci, une soirée « Être une femme aujourd'hui » au cinéma d'Auchel. Et donc, même principe, donc diffusion du film, puis débat à la suite du film et tout ça. On revient aussi sur la journée donc, pour l'avortement. C'était ça, l'intitulé exact.
Droit à l'avortement.
Le droit à l'avortement.
Le 28, ouais.
Nous avons donc deux événements qui se dérouleront le 26 novembre à la médiathèque de Lillers et le 10 décembre au cinéma Les Étoiles à Bruay. Et c'est la projection du film « Quand je veux, si je veux ». Lily, est-ce que tu peux nous en toucher un mot ?
Eh ben oui, donc c'est un film documentaire sur qui retrace des portraits de femmes qui témoignent face caméra sur l'accueil autour de l'avortement auquel elles ont dû avoir recours. Donc ça va brasser des tas de choses. Hein. C'est la découverte de la grossesse non désirée, l'accueil dans les centres pour IVG ou dans les centres de planification ou au planning familial ou chez son médecin. Comment ça s'est passé, comment se passe l'intervention. Enfin voilà, c'est passionnant. Mais peut-être qu'on peut aussi déjà présenter les réalisatrices et réalisateurs du film.
Eh bien, juste
rendons à César ce qui appartient à César.
Oui, donc le film « Quand je veux, si je veux » est réalisé par Susanna Arbizu, Henri Belin, Nicolas Drouet et Michael Foucault. Et il y a deux assos, deux collectifs producteurs qui sont Chambre Noire et La Cavale.
Et donc dans on a été, c'est eux qui nous contactent au planning hein, nous demander notre regard en tant que militante du planning familial, donc sur le documentaire qu'ils ont réalisé, et puis très vite on s'est aperçu que donc on peut en faire un outil d'échange et un outil de promotion de ce droit qui devrait être un droit pour toutes en France et dans le monde. Et donc c'est pour ça que on partenariat, donc parce que le planning en tant qu'association ne travaille pas centré sur lui-même, hein, mais du coup a tout un tas de partenaires, et donc notamment la médiathèque de Lillers qui était très intéressée pour son public, donc mettre en place une petite soirée voilà, de projection et d'échange et d'information sur cette question de l'accès à l'avortement. Et puis le cinéma Les Étoiles à Brué, un partenaire régulier du planning. Et donc ça aura la même forme, projection et échange.
Donc on rappelle le 26 novembre à la médiathèque de Lillers et le 10 décembre au cinéma Les Étoiles de Brué. Oui, Marin.
Et peut-être une projection en préparation au Lag à Liévin, à voir.
Voilà.
On vous redira ça. On vous redira ça très prochainement dans la prochaine émission, sûrement. Sur ce, c'est le moment d'attaquer sur notre terme. Étant donné qu'on a fini notre agenda sur ce thème-là, aujourd'hui, nous allons parler de la fameuse IVG. Déjà, première question, que signifie IVG ?
Alors voilà, interruption volontaire de grossesse.
Qu'on appelle plus communément un avortement.
Voilà. Et on va se dire, mais pourquoi il faut encore en parler, hein, puisque on sait que l'avortement en France est légal depuis 1975. On en a célébré là, une date anniversaire donc en 2015, et puis aussi lors de la mort de Simone Veil, qui a, elle, porté le texte de loi politique et a essuyé la vindicte du milieu politique, des hommes politiques qui étaient contre l'avortement. Mais donc voilà, ça date, hein, 75, c'est quand même pas tout à fait hier. Alors au regard de l'humanité, oui, c'est pas très vieux. Pour l'histoire des femmes de France, c'est quand même pas tout à fait hier. Et donc on se demande pourquoi il faudrait encore faire une émission sur le sujet, pourquoi il faudrait encore faire tourner un documentaire qui le rappelle, quand je veux, si je veux. Eh ben si, il faut encore le faire, ne serait-ce que parce que quand on tient des stands au planning familial, ou même des animations, des groupes de parole, ou alors on nous demande des fois de venir dans des centres sociaux ou même des municipalités qui rassemblent des petits groupes et tout, et on nous demande de venir des fois animer un peu différents ateliers, ben très souvent, que ce soit dans ces ateliers ou dans les stands, on vient nous voir et on dit oh ouais, mais non, mais alors c'est bien ce que vous faites, hein, mais par contre ce qu'on comprend pas du tout, c'est et on n'est pas d'accord, c'est l'avortement. Bah non, quand même, maintenant avec tous les contraceptifs qu'il y a,
elles exagèrent,
c'est n'importe quoi, elles le font exprès. Hein, et puis on sait aussi que ce sont des propos qui sont relayés au niveau politique avec les fameux IVG ou avortement de confort, hein, on va y revenir plus tard à quel point c'est confortable un avortement.
Tout à fait, tout à fait.
Mais donc voilà, c'est pour ça qu'on se réunit aujourd'hui pour se dire que ben oui, pourquoi il faut encore avoir un accès à l'avortement. D'abord la question des contraceptifs, est-ce qu'un contraceptif va tout régler ? C'est ça la question. qu'on se dit que un peu, c'est un peu comme la conduite. On va reprendre un autre parallèle hein, que j'aime bien faire. Ouais, comme,
que tu aimes beaucoup.
Voilà. pour la conduite, on va apprendre le code, une théorie. Hein, on apprend la théorie, on s'entraîne, on passe un examen sur la théorie. Puis on a des nombreuses heures, hein, plus ou moins nombreuses, hein, selon si on est doué ou pas, de conduite, donc d'apprentissage de la pratique. Et puis, une fois qu'on a le permis, on passe l'examen. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'on est apte à passer l'examen et tout. Hein. Et une fois qu'on a l'examen, on prend une assurance pour soi-même en cas d'accident, mais aussi pour les autres. Et quand bien même, si nos auditeurs, nos auditrices sont conducteurs, conductrices, ils savent quand même bien qu'on on garde en tête que malgré toutes ces précautions, on sait qu'en prenant un volant, on risque toujours un accident, de la tôle froissée à quelque chose d'éventuellement plus grave. Que ce soit par de notre faute ou de la faute des autres, on sait que le risque d'accident, il est intrinsèque à la conduite. Eh bien, il faudrait qu'on se dise que le risque de grossesse non désirée, comme aussi le risque d'infection sexuellement transmissible, mais là aujourd'hui on est sur le risque de grossesse non désirée, est intrinsèque à la sexualité. C'est comme ça. Et effectivement, à partir du moment où on s'est bien dit ça, alors là on pourrait éventuellement espérer des pouvoirs publics notamment, mettre en place ce qui est de l'ordre effectivement d'une formation, donc d'une éducation à la vie affective et sexuelle. Donc je le rappelle, on parlait de texte de loi, donc il y a quand même un texte de loi qui dit, donc depuis 2001, qu'il devrait y avoir 3 séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle chaque année, pas 3 séances pendant tout un cursus, mais chaque année. Quand un enfant entre au CP et quand il ressort de terminale, il aurait dû avoir 3 séances d'éducation et d'information sur ces questions-là chaque année, depuis le CEP jusqu'à la terminale.
Déjà, pour en faire demander une seule, c'est la croix et la bannière, alors 3, voilà. C'est compliqué.
Donc on est en face d'adolescents et d'adultes qui sont trop peu informés sur comment fonctionne leur corps, comment fonctionne le corps de l'autre, comment on peut être enceinte, comment on peut mettre quelqu'un enceinte, parce que la contraception et l'avortement, c'est pas qu'une question de fille. Et puis, on a trop peu d'informations sur les contraceptions. On en a parlé à la
presse. C'est parce qu'ils m'ont pas eu pendant les cours d'SVT, c'est pour ça.
Voilà. C'est vrai qu'on va pas mettre toute l'éducation nationale et tout le monde des adultes dans le même sac. Il y a des enseignants et des infirmières scolaires qui se démènent, comme il y a des parents qui expliquent à leurs enfants ou, on espère pour leurs pauvres enfants, les orientent vers des personnes qui pourraient leur expliquer et leur éviter la honte d'avoir à parler de ça avec sa mère ou son père. Mais donc oui, effectivement, il y a des enfants et des adolescents et des adultes qui sont plus ou moins informés que d'autres. C'est bien là, hein, sur le plus ou moins, qui est le bas blesse. Puisque sur les chiffres de l'IVG, il y en a un qui est frappant, celui de base, hein, sur le fait qu'une femme sur 3 aura recours à l'IVG dans sa vie. Une femme sur 3. C'est pas non plus comme si c'était quelque chose à cacher sous le tapis comme on essaye de le faire. Mmh. Est-ce que tu peux avoir d'autres chiffres qui seraient un peu parlants, notamment sur les avortements alors que les femmes ont un contraceptif? Est-ce que tu as quelque chose comme ça, Marin?
Ben oui, parce que deux tiers, donc il est cité deux tiers de recours à l'IVG sous contraceptif, donc de déclenchement d'une grossesse non désirée, alors qu'un contraceptif est pris. Donc on rappelle que chaque contraceptif a un taux d'efficacité
variable,
voilà.
Et de 97, alors sur les,
99%,
voilà, sur les contraceptifs hormonaux, après il y a des méthodes qui sont vraiment nettement moins efficace que 97%. Hein.
Mais aucun n'est efficace à 100%.
Voilà.
Donc ça peut faire encore écarquiller les yeux de certaines personnes.
Voilà, parce que ça déboulonne une idée reçue de dire, ah bah oui, mais par exemple, c'est toutes ces jeunes écervelées qui prennent pas leur pilule, qui l'oublient, qui la prennent mal, tout ça. Donc déjà, donc donc on a dit une femme sur 3 qui aurait recours à l'IVG. Ça veut dire qu'il y a eu au moins une femme sur 3 qui s'est trouvée en situation de grossesse non désirée, parce qu'il y en a plus, parce que certaines font le choix
de
garder l'enfant, même si c'était une grossesse qui n'était pas attendue, pas calculée à ce moment-là. Puis après, on le dit, deux tiers sont sous contraceptif. Là, on parle précisément, par exemple, de la pilule, mais on
du
dit
stérilé.
Du stérilé. Mmh. Et on a une autre idée reçue qui donne un peu l'impression que ce seraient les adolescentes qui seraient le plus sujettes à avoir recours à l'avortement, comme si elles sont jeunes, elles sont
naïves,
voilà, puis irresponsables, et qu'elles ne prendraient pas de contraceptif. Alors qu'on le voit, 2/3 des femmes qui ont recours à l'avortement le sont sous contraceptif. Et la part des mineurs dans les avortements, on a aussi quelques chiffres.
Alors, mineurs, on a la tranche d'âge 15-17 ans. Ouais, c'est celle qui est donnée dans les études là, récemment parues. Donc, c'est l'adresse. On est sur les sites officiels très récents, des chiffres qui sont sortis là, fin du mois de septembre.
C'est pour 2018. Hein.
Voilà, ouais. Qui concerne l'année 2018. Et donc, pour les mineurs 15-17 ans, on est à 7 recours à l'IVG pour 1000 femmes. Pour la population des 15-49 ans, on est plutôt autour d'un chiffre autour de 13,5 pour 1000 femmes, mais ça, ce sont des chiffres qui concernent notre région des Hauts-de-France.
Au niveau national, je me demande, c'est pas 6.
On est à 5,9, donc quasiment 6 IVG. Voilà, 6 de femmes mineurs. Qui ont recours à l'IVG de femmes mineures pour 1000 femmes.
Donc on est, voilà, on n'est pas l'âge le plus courant pour recourir à l'avortement, il se situe plutôt sur un gros paquet entre 20 et 35 ans.
On est à plus de 25 pour 1000 voilà. Dans cette tranche d'âge.
Voilà. Et donc on est bien là sur l'idée d'un parcours de femmes, en fait, de vraiment se dire entre le fait qu'on ait trop peu d'informations sur comment fonctionne notre corps, comment se passe la sexualité, qu'on ait trop peu d'informations sur comment fonctionnent les contraceptifs. Aussi sur le fait que tout ça, ça fait que si on n'a pas d'informations sur les questions de sexualité, on a aussi du mal à avoir assez d'informations sur comment exprimer son choix, son libre choix, son libre consentement à la sexualité, mais aussi au choix du contraceptif. On va revenir un peu plus tard sur lesquels sont les plus donnés, prescrits. Oui. Et dans quelles conditions. Mais on voit déjà que sur les idées un peu reçues, on commence déjà un peu en déboulonner quelques-unes quand on voit les statistiques où on n'est pas sur les filles les plus jeunes qui seraient soi-disant irresponsables. On est... Vas-y.
Oui, juste parce qu'il y a une petite méprise moi, dans ma présentation des chiffres. En fait, il s'agissait de la France métropolitaine pour le chiffre de 5,9 femmes mineures ayant recours à l'IVG pour 1000 femmes mineures, donc 15-17 ans. Mmh. Puisque les chiffres qui concernent les départements,
d'outre-mer ou territoire d'outre-mer,
sont plus élevés. Et du coup, je voulais juste rappeler que... Ce sont pour les chiffres que l'on a évoqués, des chiffres qui concernent la métropole.
La métropole. Et donc, c'est là où on voit cette question prégnante de l'accès à l'information et de l'accès à la contraception.
Qui engendre d'énormes disparités.
On sait aussi que si on prenait simplement le chiffre de fiabilité de tous les contraceptifs et qu'on les reportait au nombre de femmes qui prennent ces contraceptifs, et qu'on ferait cette petite opération en disant par exemple un contraceptif qui est sûr à 99%, bon bah il reste 1%, il y a autant de femmes qui le prennent, et ben il y aura 1% de ces femmes-là pour lesquelles il y aura une inefficacité, donc une probable grossesse non désirée. On sait que si on fait tous ces calculs-là, on dépasse de loin le chiffre un peu constant de 220 000 avortements par an. On serait bien au-delà de ça. Donc on se rend compte que les femmes, jeunes ou plus âgées, dans leur ensemble, gèrent relativement bien, gèrent voire même très bien, ce risque de grossesse non désirée. Et ça, c'est tout ça parce qu'on imagine que la contraception est une solution à l'avortement. On a pris le problème à l'envers, en fait. L'avortement est une solution à une situation de grossesse non désirée. La contraception est une solution pour avoir une sexualité libre et épanouie sans risquer de procréer alors qu'on ne le désire pas. Et donc, il faut bien imaginer qu'on ne va pas éradiquer l'avortement. Ceux et celles qui pensent qu'il pourrait y avoir, par une conjonction de nouvelles techniques contraceptives, plus des femmes plus informées, on arriverait un jour à un chiffre de zéro avortement. Non, c'est pas possible. C'est juste, voilà, l'avortement est un recours à une grossesse non désirée et on se retrouve de bien des manières dans des situations de grossesse non désirée. Et l'important, c'est donc d'avoir le choix. Je pense que c'est important aussi de refaire un peu un petit point sur le vocabulaire, parce que souvent, sur des sites malveillants ou des personnes qui seraient anti, du coup, avortement, on se trompe. Le camp qui est pour la liberté des femmes et la santé des femmes et le bien-être des enfants, c'est le camp des pro-choix, c'est-à-dire les militants pour un accès libre à l'avortement sont des militants et militantes pro-choix. Le choix d'avoir un enfant, le choix de ne pas en avoir, le choix d'un contraceptif ou pas, le choix d'une sexualité ou pas. Avoir le choix, c'est primordial pour avoir une sexualité épanouie et responsable et puis maîtriser sa vie. Alors que le camp d'en face, ce sont des anti-choix. C'est anti-choix de vivre une sexualité qui serait épanouissante, anti-choix dans la contraception et anti-choix dans le fait de se maintenir ou pas dans une situation de grossesse non désirée.
Et ils ont un terme aussi qu'ils utilisent qui peut être confus, c'est ce qu'on appelle les pro-life.
Voilà,
ils sont pour la vie, donc en fait, s'il y a eu conception d'un enfant, ben, il faut le laisser vivre. Et il ne faut pas faire une IVG ou quoi que ce soit. Donc, c'est là aussi où on se dit « Ah, ils sont pro quelque chose, donc peut-être que c'est bien. » Mais en fait, si, c'est les anti-choix, en fait.
Bah voilà, non. En fait, ils ne sont pas pro quelque chose.
Pour la vie.
Pour la vie. On accompagne au sein du planning des permanences d'accueil du planning familial. On accompagne aussi bien... Alors, il faut savoir que les femmes qui se présentent en conseil... pour avoir recours à l'avortement, pour avoir des informations sur l'avortement, les trois quarts du temps, elles ont déjà décidé. C'est-à-dire qu'on a des femmes qui ont décidé et nous, on n'est pas dans une attitude patriarcale et infantilisante de venir remettre en question leur choix et s'assurer comme si elles n'étaient pas capables de faire leur propre choix. Non, on les accueille, elles ont déjà choisi, on les informe donc des lieux et des méthodes et on les oriente au mieux. Si éventuellement on a en face de nous une personne qui n'est pas sûre en fait de son choix ou n'a pas encore fait de choix, alors on amorce une conversation pour comprendre la situation, les conditions de la grossesse et puis pourquoi il y aurait un doute. Pourquoi la question c'est pas pourquoi vous le garderiez, c'est surtout pourquoi vous ne le garderiez pas. Qu'est-ce qu'il y a comme argument qui vous met en doute sur votre capacité à mener cette grossesse à terme? Et une fois que la personne a mis à plat elle-même ses arguments, c'est elle qui fait son choix et on réorientera vers des sages-femmes, des choses comme ça, pour poursuivre une grossesse si la volonté est de poursuivre la grossesse. Au planning familial, on est vraiment pro-choix. Donc il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Et l'idée qui est colportée du planning familial, alors le mouvement associatif, le mouvement français pour le planning familial, de dire qu'on pousserait tout le monde à l'avortement, enfin, c'est d'une ineptie totale. Enfin, faut bien imaginer que sur les plusieurs dizaines de milliers de militants et militantes et salariés du planning, évidemment qu'il y en a énormément qui ont des enfants. On a des enfants, toutes n'en ont pas, tous et tous n'en ont pas, mais il y en a qui en ont, et donc ce serait... elles ne viennent pas au planning par dépit, du genre « Ah, flûte, on a raté, on n'en voulait pas, donc maintenant on milite, c'est ridicule. » On est le premier nom du planning familial dans les années 50, quand la contraception et l'avortement étaient encore illégaux. C'était maternité heureuse, c'était dans l'idée que on vivrait bien en société, que si on avait un choix de maternité, un choix de grossesse, un choix de maternité, et qu'on pouvait élever des enfants décemment, que quand on en avait librement consenti l'arrivée, et pas quand on enchaînait effectivement les grossesses à l'époque où on avait très peu de moyens à disposition.
Est-ce qu'on en profite pour faire un point sur les deux méthodes, puisque tu évoquais les méthodes
Nous t'écoutons, Marin, vas-y.
Alors, deux méthodes, une méthode médicamenteuse et puis une méthode chirurgicale. Alors, la méthode médicamenteuse, elle peut être, on peut y avoir recours jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse ou, autrement dit aussi, la septième semaine après le début des dernières règles.
Ouais, c'est une semaine d'aménorrhée, voilà. C'est un terme un peu compliqué.
Oui, mais qui sera utilisé, c'est vrai, lors des rendez-vous.
Et l'aménorrhée, c'est bien, en fait, pour un calcul simple, c'est il faut essayer de se souvenir de la dernière fois où on a eu ces règles. Et là, on compte le nombre de semaines depuis ce temps-là. Et voilà, si on est encore jusqu'à 7, si on est à 5, 6, 7 semaines, on peut encore avoir recours à l'avortement dit médicamenteux.
Et puis ce délai peut aller jusqu'à 7 semaines de grossesse, donc 9 semaines après le début des dernières règles, donc 9 semaines d'aménorrhée. Si la prise de médicaments se fait lors d'une hospitalisation, enfin voilà, dans un établissement de santé.
Certains établissements proposent cette méthode. Exactement, jusqu'à 9 semaines dans le département du Pas-de-Calais.
Voilà, mais c'est dans la loi et normalement on devrait avoir accès aussi à ce délai. Et puis il y a l'autre méthode qui est l'IVG chirurgicale.
Alors qui est dite chirurgicale.
Voilà, ou instrumentale, on voit plusieurs termes.
Ou aspiration, enfin c'est vraiment un peu...
Par aspiration, voilà, ouais. Ouais.
Parce que chirurgicale, ça fait peur, des fois on a l'impression que certaines personnes pensent qu'on va se faire, on ouvre le ventre, alors que non, il n'y a pas d'intervention, rien n'est ouvert, tout est passé par les voies dites naturelles, donc par le vagin et par l'utérus.
Et du coup, là, on a un délai de 12 semaines de grossesse et donc 14 semaines après le début des dernières règles pour avoir recours à cette méthode.
Autrement, 14 semaines, le dernier délai légal en France. Au-delà de 14 semaines d'absence de règles, il n'est plus possible d'avoir recours à l'avortement en France.
Voilà.
Une intervention, une interruption volontaire de grossesse.
Ouais.
C'est un autre sujet, mais c'est possible pour une interruption médicale de grossesse, quand il y a une pathologie. Voilà. Ce sera un autre volet.
Donc ces deux méthodes, on peut y avoir recours. On a le choix dans ce recours, soit médicamenteuse, soit par aspiration, comme tu le disais, Lily. Évitons le terme chirurgical. Donc on peut faire ce choix avec l'explication des deux méthodes par le médecin ou par les personnes que l'on rencontre, pourquoi pas au planning familial lors d'une demande de renseignement, ou avec une sage-femme, puisque les sages-femmes sont autorisées à donner bien sûr ces informations, à prendre en charge et éventuellement à prendre en charge la femme dans le cadre d'une IVG médicamenteuse, ou après réoriente vers les établissements de santé pour l'autre solution.
Mais effectivement, certaines sages-femmes sont conventionnées pour pouvoir mettre en place les IVG médicamenteux, comme les centres de planification.
Les CPEF.
Également, les CPEF, Centres de planification et d'éducation familiale, qui sont, dans le Pas-de-Calais, ce que tout le monde appelle communément le planning familial. Et en fait, pas eux.
Quand on nous appelle en mode « oui, il y aurait besoin de la pilule ».
Voilà, effectivement, quand on tape sur Google planning familial, parce qu'on se dit dans la tête, voilà, depuis les années 50, les 60, c'est le planning familial qui s'occupe de la contraception et des informations autour de l'IVG. Ben, si vous tapez planning familial Pas-de-Calais, vous allez tomber sur nous, le planning familial, avec le siège à Lens. Mais nous n'avons pas de gynécologue, nous n'avons pas de médecin, nous n'avons pas de sage-femme dans nos locaux parce que nous ne sommes pas agréés centre d'éducation et de planification familiale, qui eux sont un service du département. Et là, il y a un numéro spécial, il faut taper centre de planification et ils sont répartis sur tout le territoire avec des permanences dans différentes villes du Pas-de-Calais, et eux sont aussi habilités à proposer l'IVG médicamenteuse. Donc ça, il faut le savoir. On n'est plus obligé d'aller directement à l'hôpital ou chez son médecin ou chez une sage-femme, mais on peut aller aussi dans les CPEF.
Et donc, sur l'IVG médicamenteuse, on peut, jusqu'à la cinquième semaine de grossesse, la faire à domicile, donc prendre les cachets et puis avoir le déclenchement et l'expulsion de l'œuf ou du fœtus, enfin de l'embryon, chez soi. Ensuite, sur le délai qu'on stipulait auparavant de 7 semaines de grossesse, mais ça sera plutôt dans des établissements
De ambulatoire.
Santé, donc en ambulatoire, c'est quelques heures. Et pour l'IVG par aspiration, eh bien, on a généralement une demi-journée d'hospitalisation en ambulatoire aussi.
Et c'est 15-20 minutes au bloc.
Voilà, alors qu'est-ce que ça veut dire par aspiration? Rentrons dans les détails et après on reviendra sur la médicamenteuse, qu'est-ce que ça veut dire médicamenteuse. L'IVG par aspiration, eh bien, donc on peut faire le choix éclairé et réfléchi d'une anesthésie locale ou d'une anesthésie complète.
Mmh. Donc, devrait avoir le choix, ça doit nous être proposé et on peut la demander. On peut demander une anesthésie générale comme demander une anesthésie locale.
Et donc locale, ça veut dire quoi? C'est l'endormissement de la zone du col de l'utérus.
Mmh. Alors on a un petit cachet ou liquide qui permet d'être un peu stone, on va dire, puis détendu. Mmh. Et puis effectivement, on va endormir le col de l'utérus puisque c'est lui qu'on va un peu entrouvrir pour faire passer une canule.
Voilà, et le cachet peut aussi servir à la dilatation du col de l'utérus. Voilà. Il peut y avoir un cachet pour ça, ou après elle peut être aussi manuelle, entre guillemets. Enfin, voilà.
Et donc on fait passer une canule, et une canule qui est branchée sur une machine, et puis on va décoller un peu la muqueuse qui recouvre la paroi utérine et dans laquelle se sont nichées les cellules qui ont démarré la division et s'en sont au stade embryonnaire. Donc, et cette machine va aspirer, c'est pour ça qu'on dit par aspiration. Alors effectivement, c'est pas non plus génial, hein, comparé de la chirurgicale, aspiration, c'est pas top. Mais voilà, ça prend 15 à 20 minutes et ça a une très grande efficacité et fiabilité.
Voilà, si on ne souhaite pas du tout avoir conscience de cette étape, il est complètement possible d'avoir une anesthésie générale. Il faut juste un rendez-vous avec l'anesthésiste préalable. Donc ça ajoute un rendez-vous dans le processus. Donc cette méthode, elle est efficace à 99,7%. La méthode par aspiration.
Et donc nécessite toujours une visite de contrôle dans les 15 jours à 3 semaines après l'intervention.
Pour un examen ou une échographie de contrôle pour vérifier qu'il ne reste pas des petites parties de cet embryon.
Des matières comme de la muqueuse, tout ça, qui pourraient provoquer
une
infection ou quelque chose comme ça.
Si on rebascule du côté de l'IVG médicamenteuse, eh bien là c'est la prise de deux cachets. À 48 heures environ d'écart, que soit chez soi, soit en établissement médical, établissement de santé, et donc un premier cachet qui va stopper le développement de la grossesse, et puis 48 heures plus tard, un cachet qui va déclencher les contractions et l'expulsion de l'œuf, l'embryon.
C'est bien l'utérus qui est mis un peu comme en situation de règle et qui du coup se contracte pour se débarrasser de la muqueuse.
Voilà, ou d'accouchement. Enfin, parce qu'on parle de douleurs qui peuvent être plus proches de celles de l'accouchement que de douleurs qui proches des règles
selon que la grossesse est plus ou moins avancée, effectivement. Et c'est là où on revient sur la question du choix, parce qu'il y a à la fois une question d'idées reçues, c'est-à-dire que quand on parle d'IVG médicamenteuse aux femmes qui sont en conseil, elles ont l'impression que c'est hop, on prend un cachet et puis hop, c'est bon.
Enfin, voilà, c'est comme facile et ça a peu de conséquences.
On n'en parle plus. Alors qu'en fait, non, voilà, c'est vraiment... plusieurs séries de cachets qu'on prend devant les professionnels, hein, même si après on peut
tout
effectivement
à fait, c'est
rentrer
durant le rendez-vous avec le médecin
chez soi. Mais effectivement, contrairement à la méthode dans le bloc où c'est 15-20 minutes et puis une grande partie, alors certes après on a des saignements, on est comme ça démarre un nouveau cycle, c'est comme une période de règles, mais la majorité de la muqueuse et des matières ont été évacuées par l'aspiration. Là, l'IVG médicamenteuse, ce sont des médicaments qui demandent à l'utérus de se contracter et de se débarrasser lui-même de la muqueuse qui est le tapis et des cellules qui se sont développées.
Ce qui peut prendre plusieurs jours.
Voilà, de plusieurs heures de saignement à plusieurs jours, ce qui peut amener effectivement à expulser des matières assez importantes et tout, et quand on peut être seul, des fois, chez soi. Donc c'est pas une méthode anodine. Et c'est là où on repose la question du choix, puisqu'on voit que depuis 20 ans, parce que ces cachets-là, cette méthode-là est moins chère, et on sait que la question des droits des femmes et de l'accès à la santé, la question de l'avortement est un peu le vilain petit canard des hôpitaux. On connaît la situation délicate des hôpitaux et du service public qui sont détricotés ces 20-30 dernières années. Et donc c'est l'IVG qui en prend un sérieux coup, puisqu'on voit que depuis 20 ans, on est passé de 10% d'IVG par voie médicamenteuse à presque 59,4%
en 2018.
Et donc là, on est à près de 60%. Donc on sent bien que 60%, on peut se poser la question de est-ce qu'on a vraiment expliqué les méthodes, est-ce qu'on a vraiment donné le choix aux personnes. En même temps, il se peut que les praticiens qui font les premiers accueils laissent le choix, mais qu'en fonction des délais, parce qu'on va revenir un peu, je pense qu'on va peut-être faire une petite pause et voir un peu tous les freins autour de l'avortement. Mais les délais impliqués dans les hôpitaux peuvent parfois nécessiter d'aller dans du libéral, contraintes d'aller dans du libéral ou des CPEF vers la médicamenteuse, parce que sinon on serait hors délai à cause de la situation des hôpitaux, des CIVG, des centres pour les IVG.
Et juste mettre en regard ce qu'on disait du côté de l'IVG par aspiration, là, cette méthode médicamenteuse est efficace à 95%.
95%.
Voilà, 95%, oui. Du coup, eh bien, ça veut dire que si on n'a pas la chance d'avoir un taux de réussite
d'être dans le taux de réussite,
il faut avoir recours à une IVG par aspiration complémentaire.
Alors, ce sera plus du coup une IVG, mais ce sera ce qu'on peut plus appeler un curetage, quoi.
Ouais,
alors qu'avant, voilà, le fameux curetage qu'on utilisait pour, de manière erronée pour l'avortement, non, l'avortement n'est pas un curetage.
Avec le cintre quand on le faisait à la maison, voilà, c'est ça.
Ouais. Mais donc effectivement, la méthode médicamenteuse nécessite impérativement, nous on ne cesse de le répéter, une visite de contrôle dans les 15 jours à 3 semaines après la prise des médicaments. C'est vraiment impératif pour notre santé.
Voilà, et là il y a une écho de contrôle effectivement, puisqu'il faut vérifier qu'il ne reste rien dans l'utérus.
Une petite pause musicale.
Une petite pause avant de revenir sur les fameux freins que vous avez annoncés. Donc là on écoute le groupe Eve avec Until the Moment.
Thank you.
Nous sommes de retour sur le gang des hystéries et nous continuons donc notre émission sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Alors peut-être quelques rappels sur les lois en fait qui correspondent à cette IVG.
Oui, alors on a parlé de la loi Veil hein, de 75 hein, qui autorisait l'accès à l'avortement. Mais après, il y a eu dans les années 80 donc, le fait que ce soit gratuit, enfin pris en charge, en tout cas en partie. On va avoir un peu quelques détails plus tard. Et puis, une des avancées majeures dans les années 2000, c'est le fait que l'avortement soit accessible pour les filles mineures dans l'anonymat, dans la confidentialité par rapport à leurs parents. Il n'est pas obligatoire de requérir l'accord d'un ou des deux parents pour avoir recours à l'IVG pour une personne mineure. Par contre, il faut être accompagné d'une personne majeure de son choix. C'est un espèce de filet pour la sortie de l'hôpital, pour ne pas être seule devant l'hôpital. Donc une personne majeure de son choix. Et les deux méthodes sont accessibles pour les personnes mineures également. Et il y a un entretien, par contre, obligatoire qui doit être fait soit dans un centre de planification, donc dans le Pas-de-Calais, soit au planning familial, soit avec une assistante sociale. Il y a différentes méthodes, mais ça, c'est les hôpitaux qui orienteront. Un entretien social obligatoire pour les personnes mineures.
Donc, par contre, de tout ce qu'on vous a dit pendant l'émission, on vous a dit les lois, on vous a dit comment ça se passait, mais la réalité, elle est tout autre, Marin.
Alors, oui, et... En écho à nos préoccupations et à nos constats sur le terrain, on voulait vous faire part d'une étude sortie à la fin du mois de septembre par Mediapart, un dossier autour de l'accès à l'IVG en France, qui relève de nombreux points noirs. Ça passe par les arnaques à l'avortement avec des dépassements d'honoraires, notamment dans les cliniques privées, puisque normalement l'IVG est gratuite, entièrement prise en charge par la Sécurité sociale.
Sauf qu'il y a des examens avant, et notamment pour l'échographie, il faut obtenir une échographie et qu'on va tomber sur des cabinets d'échographes qui vont aller au-delà du prix qui est autour de 35 euros et qui peuvent facturer
ou faire des examens complémentaires non nécessaires, etc. Voilà. Souvent, on se rend compte, et Lily, tu y faisais une allusion plus tôt dans l'émission, on se rend compte que la méthode est imposée, ou que le choix est assez superficiel, en fait. Une fois qu'on a expliqué les deux, on peut contraindre par moult manières la femme ou la jeune femme à choisir, notamment l'IVG médicamenteuse, on l'a évoqué un peu plus tôt. Et puis, il y a l'éloignement des centres où se pratiquent les IVG, donc c'est aussi un frein pour les personnes, on pense aux personnes non véhiculées, aux personnes mineures, etc., aux personnes qui travaillent et qui devraient aussi poser des jours de congé ou des récups.
Et les fameux déserts médicaux aussi, où il y a de moins en moins de médecins dans certaines campagnes.
Ouais, tout à fait.
On est obligé de faire plusieurs kilomètres, voire de changer de département pour pouvoir trouver un centre qui puisse...
Voilà, tout ça se contracte, ce temps.
Et en imaginant pour une personne mineure, voilà, réussir à se déplacer seule, dans des endroits très éloignés, pas toujours, alors je pense dans le Pas-de-Calais, il y a des endroits pas toujours très très bien desservis en termes de transport. Et puis comment le faire, s'absenter plusieurs fois, sans en parler, on ne peut pas en parler... à ses parents de crainte de subir des violences.
On l'a évoqué aussi, et puis tu vas y revenir là tout de suite, les délais d'attente qui se rallongent, et ça c'est quand même très très inquiétant. Et puis en cinquième point noir de l'état des lieux dressé par l'équipe de Mediapart, eh bien, il y a le non-respect de la confidentialité, ce qui est très grave aussi et qui peut mettre en danger les personnes.
Voilà, alors nous, pour faire un petit focus sur le niveau local, sur le Pas-de-Calais, sans citer de laisser IVG, les centres pour IVG nommément, mais on est effectivement sur des difficultés de l'ordre d'un délai trop important dans des périodes un peu critiques, comme la période estivale. Voilà, cet été, sur la majorité des centres IVG du Pas-de-Calais, il fallait parfois jusqu'à 3 semaines d'attente pour un premier rendez-vous. Alors, faut bien imaginer que si on s'aperçoit tardivement, voilà, on est déjà à 5-6 semaines, on ne s'est pas trop inquiété parce qu'on prend un contraceptif, donc il n'y a pas trop de raison de s'inquiéter de ça. Puis on dit, tiens, quand même, ça fait un petit moment que je n'ai pas eu mes règles. Et puis, et là, on demande, faut faire un test de grossesse, faut, voilà, éventuellement prise de sang, faut encaisser le coup, faut faire le choix. Et là, on appelle et paf, il faut 3 semaines de délai pour le premier rendez-vous. C'est-à-dire, c'est pas pour l'intervention, pour le premier rendez-vous. Donc, c'est beaucoup trop long. La période de Noël est très critique également aussi, parce que du coup, il y a beaucoup de médecins qui pratiquent les IVG qui prennent des vacances, évidemment. On ne leur en veut pas.
Les vacances sont géniales. Hein,
mais donc, ça, c'est problématique. Il y a certains centres qui refusent de pratiquer des IVG entre la 12e et la 14e semaine d'absence de règles, d'aménorrhée, ce qui sont des pratiques tout à fait illégales. D'autres centres procèdent de manière géographique, c'est-à-dire ils n'acceptent que les personnes qui vivent vraiment sur leur territoire, sans comprendre que, voilà, en fonction des délais, si on a la chance d'être mobile, ça nécessite des fois d'aller très loin pour avoir recours à une IVG dans les temps. Et aussi sur le fait que le Pas-de-Calais, en tout cas dans l'association Planning Familial du Pas-de-Calais, on s'inquiète du nombre toujours très important pour un centre comme le nôtre, parce qu'on reçoit pas autant de monde que si on était centre de planification. Et quand bien même, on a un taux d'accompagnement pour des personnes qui sont en situation d'IVG hors délai, c'est-à-dire au-delà de 14 semaines, des personnes qu'on est obligé d'orienter vers la Hollande, qui, nous, à nos sens, est très important. On est toujours autour d'une vingtaine de personnes par an, ce qui est un chiffre qui veut dire peu de choses, parce que tout un tas de personnes peuvent y aller par leurs propres moyens, ne passent pas par nous ou passent par d'autres services. Mais c'est beaucoup, et ça pose la question de l'information, de l'éducation à la vie affective et sexuelle, de l'accès à la contraception, voilà, à des horaires qui conviennent. On regrette que les centres de planification, par exemple du Pas-de-Calais, aient une amplitude horaire qui soit dans les horaires d'école. C'est-à-dire que du coup, les plus jeunes, eux, ont des difficultés à accéder à la contraception via les centres de planification, parce que pendant que le centre de planification est ouvert, elles sont à l'école. On a différentes difficultés comme ça, et on passe, ça pourrait être aussi tout le volet d'une autre émission sur le mauvais accueil et la malveillance des praticiens autour de l'IVG, et le fait d'être violent en parole et humiliant pour marquer et traumatiser les personnes. Si vous êtes en situation de grossesse non désirée, vous, une amie, une sœur, une cousine, peu importe, venez au 45 rue François Gauthier au planning familial, ou tapez dans Google planning familial et vous aurez les contacts à Lens. Vous pouvez nous appeler, on vous oriente par téléphone et on vous accueille, on vous informe gratuitement et anonymement les lundis, mercredis et vendredis dans nos locaux à Lens.
Merci à toutes les deux. On va continuer avec le petit moment de Lily qu'elle adore tout plein, tout plein. C'est la fameuse chronique badass.
Tawanda. La chronique badass.
Get away from her, you bitch!
Réveillez-vous, les filles! On va laisser les hommes sauver l'univers?
Dodge this.
C'est toujours un peu
ce jingle. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Marin? C'est la première fois que tu l'entendais.
C'est pas mal.
Hein. Donc voilà, on l'adore, hein, ce jingle. D'ailleurs, on remercie Luc du Micro Rebelle pour la technique et la création de ce jingle. Et aujourd'hui, là, dans la chronique badass, on le rappelle, hein, cette chronique, elle a pour principe de mettre en avant le parcours, la vie d'une femme que nous, on va dire badass, donc qui a été invisibilisée dans l'histoire, les sciences, la littérature, la politique. Bon, il y aura probablement d'autres champs. Hein.
Et là, tu vas remonter très très loin.
Aujourd'hui, au menu, donc on parlera de la première des premières. On remonte loin. Hein. Donc alors attention, hein, dans première, j'entends dans un contexte christiano-centré. Et puis alors, pas christiano-centré, j'entends centré dans un contexte chrétien, hein, pas de Cristiano, c'est de Jésus-Christ, hein, pas de Cristiano Ronaldo, on est en terre de foot, je sentais qu'il y en avait plein qui étaient tout, alors voilà,
c'est trop bien.
Mais non, excusez-moi, on est bien donc dans un contexte des chrétiens, voilà, on va sur le contexte chrétien, et puis après un peu plus tard, judéo-chrétien, hein, parce que du coup, on va parler d'une meuf qui concerne aussi bien les juifs que les chrétiens, vous allez voir. Donc la première des premières, donc, vous allez me dire, on va arrêter le suspense, on pourrait aller parler de Ève.
Ah,
Ève, qui aurait marqué du saut de la tentation notre destin à toutes, hein, la subversive Ève, qui, par un heureux esprit de découverte et d'ouverture au monde, a refusé d'obéir à Dieu le Père. Fallait quand même le faire, badass quand même, hein, le truc. Et elle a secoué un peu ce benet là d'Adam en lui faisant croquer dans le fruit de l'arbre de la connaissance. Parce que quand même, c'était l'arbre de la connaissance, c'était pas juste une pomme. On nous dit une pomme. Non, l'arbre de la connaissance. Heureusement qu'elle a croqué qu'elle lui a fait croquer dans cette pomme. Enfin, dans ce fruit de la connaissance. Vous m'avez suivi, hein. Donc au moins, ça l'a obligé à pas rester l'idiot utile, hein, et obéissant dans lequel l'autorité paternelle le voulait. On était quand même maligne et hyper ingénieuse, parce que du coup, c'est pas elle qui bouffe la pomme, elle le fait bouffer à l'autre, hein, parce que comme ça, hein, ça le rend moins con, hein, quand même. Et de deux, elle plonge pas tout seul, quand même. Hein. On partait bien, nous, les femmes, on partait super bien, contrairement à ce qu'on essaye de nous dire, hein, depuis 2000 ans. Et ben donc, on pourrait donc faire toute la chronique sur Ève, sauf que vous me direz, bah, pourquoi parler d'invisibilité pour une femme dont la réputation qu'on lui a collée nous pourrit encore la vie, là, nous, des millions, toutes ces millions de descendantes. Elle est quand même pas trop invisible, Ève, on est d'accord, hein?
Ouais.
On la
connaît. Eh bien, c'est parce que la chronique badass sur la première des premières ne va pas se faire sur Ève. Et ben non, parce que contrairement à la transmission religieuse et populaire et patriarcale, Ève n'était pas la première.
Ah bon?
Mais elle a contribué malgré elle à invisibiliser la première femme d'Adam, Lilith. Et ouais, celle-là, nettement moins connue. Hein. Parce qu'au pays du divorce interdit, de la sexualité hors mariage et procréation interdite, eh ben Dieu le Père, il s'est pas gêné quand même. Il s'est débarrassé de cette première femme. Et le clergé, les autres chefs religieux des millénaires et des siècles suivants, ils en ont fait de même en épurant un peu les textes. Hein. Parce qu'il faut le savoir, la religion ou les règles des religions chrétiennes et juives, elles sont pas écrites par Dieu lui-même, mais elles sont choisies par une multitude de mecs là, dans les siècles suivants, qui se réunissent et qui étudient les textes et puis qui en éliminent quand ça leur plaît pas trop, hein, lors de conciles, on appelle ça des conciles. Et là, les gars, donc, ils se rencontrent entre eux, ils décident entre eux de quel texte ils vont garder, et puis, bizarrement, la majorité des textes où des femmes ont un rôle majeur, eh ben, ils disparaissent. C'est quand même un hasard, non? Hasard ou complot patriarcal, je vois ton air là, Marin, je vous le demande. Bon. En tout cas, ça, l'organisation des religions, c'est une autre histoire. Mais alors, vous allez me demander, mais pourquoi? Pourquoi Lilith se fait virer?
Mais voilà. Pourquoi?
Voilà, merci. Pourquoi elle se fait virer, Lilith? Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire de pire que Ève, franchement, qui a condamné l'humanité à la perte du paradis? Hein, voilà. Eh bien, Lilith, la première version de la femme, qui a été créée du même matériel, matériau d'Adam, sur la base de réciprocité, hein, d'égalité. Parce qu'il faut se rappeler qu'Adam est tiré du limon de la terre, comme façonné dans l'argile, et conçu pour être à la fois mâle et femelle, dans une conception un peu asexuelle et androgyne de l'humain. J'en entends déjà qui sont en train de gueuler. Et qui n'aurait pas eu besoin de sexualité. Et puis, bon, Dieu, quand même, il se rend compte que la solitude, c'est pas terrible, hein, pour l'homme. Donc, il crée un deuxième individu, mais toujours tiré du même limon de la terre, Lilith. Voilà, sur un rapport de réciprocité. Mais là, ouais, non, rien ne se passe comme prévu, puisque la Lilith, c'est donc un peu Adam, quoi. Enfin, elle est pareil. Donc, elle est comme Adam. Et donc, bah, elle a décidé de faire un peu ce qu'elle veut. Voilà, un peu comme Adam. Pas très docile, la meuf, direct. Et surtout, elle ne voit pas du tout pourquoi elle se soumettrait à Adam en quoi que ce soit. Normal, elle est légale. Et notamment pour ce qui est du sexe. Et oui, parce que l'arrivée de Lilith, donc cesse, hein, cette idée d'asexualité dans l'humanité. Il y a une question de sexe en réciprocité. Mais là, la Lilith, elle en a un ras-le-bol, ras-la-casquette, et je vais même oser un ras-la-nénette du missionnaire et du peu de fantaisie d'Adam. Elle voudrait le chevaucher. Elle veut lui faire l'amour dessus. Et ouais, c'est son kiff, hein, on fait ce qu'on veut et tout. Elle, c'est son kiff. Et là, Adam, voilà, il se braque, il se plaint, il avait l'air pénible, hein, le Adam, il faut quand même bien le reconnaître. Et là, Dieu le Père, donc alors, ils se fâchent, non, tous les deux, d'abord, ils se fâchent, ils se prennent la tête et tout, et là, elle se casse, hein, voilà, elle se dit, ouais, c'est bon, il a saoulé l'autre, et elle rencontre un autre bonhomme, plus fun le mec. Et là, Dieu le Père, ça lui plaît pas des masses, il faut bien l'avouer. Il se fâche, il la poursuit et lui ordonne de revenir au paradis et de se soumettre à Adam, parce qu'il s'est quand même pas fait chier à faire tout ça pour rien quand même, hein, le gars, on comprend un petit peu. Et ben elle, qu'est-ce qu'elle fait, hein? Quand son créateur lui tombe dessus et la menace, elle rentre dans le rang, hein? Elle retourne se la couler douce, à rien foutre que cueillir des fruits au paradis? Et bah non, la meuf, elle refuse et elle reste là où elle est, à s'éclater. Vlan. paf, alors là, le dieu le père, là, il s'en remet pas. Et il lui colle une malédiction de derrière les fagots. Hein. Bim, Lilith, elle est vouée à la base à être fertile, à engendrer l'humanité. Et là, elle se retrouve à voir mourir ses enfants chaque jour. Et dans certains textes même, hein, plus précisément, à voir mourir 100 de ses fils chaque jour. Et bah, quand bien même, elle choisit la liberté. Et inspirante, non, la Lilith. Hein, Lilith, ouais, qu'on retrouve dans la tradition juive, puisque dans la tradition chrétienne, on a bien vu, on l'a hop, vite effacé des tablettes. Hein. Et alors là, de cette malédiction qu'elle subit, hein, découlent donc tous les mythes populaires sur Lilith, la démone, puisqu'elle est beaucoup plus connue comme démone plutôt que première femme de l'humanité. Hein. Et donc, bon, parce qu'évidemment, il faut bien imaginer hein, qu'une meuf qui préfère la liberté à la maternité et les gars, donc les gars qui ont suivi l'histoire, eux, ils ont eu du mal à encaisser, hein, faut quand même imaginer. Du coup, la figure de Lilith se transforme et se retrouve dans le folklore populaire sous différentes formes, plus obscures que la première femme de l'humanité, hein, plutôt obscures. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Florian?
Oui,
sur le côté démon là, de Lilith.
Ben, en fait, on retrouve même des textes qui sont bien antérieurs à juste 2000 ans, où en fait il y avait déjà des... Voilà, si on remonte dans l'histoire, il y avait déjà d'autres femmes avec des noms qui se rapprochent. Et au début, c'était des forces plutôt naturelles qui étaient autour des tempêtes, des vents, des ouragans, etc. Et de ces forces qui étaient juste des phénomènes naturels, on en a transformé en des démons. Mais par contre, l'histoire que tu donnes où... ce comté démoniaque là, elle est reprise en nombre par différentes croyances. C'était une envoyée de même pas dans un truc, c'est la terre mère qui l'envoie pour récupérer des semences et créer plein de petits démons qui allaient parcourir la terre. Donc oui, il y a ce côté noir et on retrouve même Lilith pour celles et ceux qui s'y connaissent en astrologie parce que c'est l'autre nom de la lune noire. Et la lune noire, c'est l'opposé donc, de la lune quand on fait les fameuses cartes d'astrologie et qui au début n'était pas très au niveau des interprétations, qui était tout ce qu'on pouvait perdre, tout ce qu'on avait peur, etc. Donc ça a vraiment un côté négatif dans toutes les histoires qu'on peut retrouver.
Et puis c'est vrai que le type qu'elle va rejoindre, qui est plus fun que Adam, vu comme un espèce de suppôt de Satan, effectivement.
Ben merci beaucoup Lily pour cette rubrique. Nous sommes au regret de vous dire que l'émission se termine actuellement. Donc nous vous remercions de nous avoir écoutés. Marin, merci. Lily, merci aussi.
Et à bientôt.
On se dit donc au mois prochain et on termine avec Butterfly Tea, Butterfly in Paris. À bientôt.